I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Camille et Justine, bienvenue dans On se tient au jus. Aujourd'hui on est avec Pénélope Bagieux et on boit une citronnade au yuzu. En tout cas moi je bois ça. C'est délicieux.
C'est bon ?
Ouais ça va, c'est pas mal. Ça va Pénélope ?
Ça va super, merci.
Merci d'être là.
Mais non, merci à vous de m'inviter, c'est trop cool.
On est avec Pénélope qui caresse un chat.
Ça, ouais, je pense que ça qui va... caresse Minette.
Ouais, qui s'est mise illico à côté de Minette parce que c'est la première fois qu'on tourne dans l'appartement de Justine. Oui. Voilà, on vous donne un peu le contexte car vous n'avez que l'oreille, mais sachez-le.
Tout à fait. Pour les gens qui ne connaîtraient pas, ça se peut, Pénélope, eh bien, nous avons fait une petite acrostiche pour la présenter. Donc c'est parti. Pénélope, P comme personnage, elle est autrice et dessinatrice de BD. Elle a donné vie à plein de femmes comme Joséphine, Charlotte ou Zoé.
E comme école supérieure des arts déco, c'est la formation qu'elle a faite et elle a eu les moins bonnes notes de sa promo. En tout cas, ça c'est Wikipédia qui le dit.
N comme nommée chevalier des arts de lettres en 2013. On dit pas chevalière d'ailleurs ?
Mais non, malheureusement.
Et on dit des arts et des lettres, évidemment. Sans vouloir être. Oui, on dit pas chevalière. E comme Esner, le prix qu'elle a reçu en 2019 pour ses ouvrages culottés. Pour info, c'est une des plus hautes distinctions mondiales qu'on peut recevoir en bande dessinée.
Rien que ça. Ouais. Elle comme Lestrade, le titre de sa dernière création et son premier récit autobiographique qui est aussi formidable que tout le reste de ses œuvres.
Merci. O comme... Oh, mais on vous a pas encore parlé de son blog. Ma vie est tout à fait fascinante, qu'elle a tenue entre 2007 et 2014 et qu'il a révélé au monde entier.
P comme Presse, vous pouvez retrouver ses dessins en ce moment dans Télérama. Elle a aussi bossé entre autres avec l'Humanité, Le Monde et Oups.
E comme engagée, elle partage son engagement féministe allègrement sur ses réseaux sociaux et c'est aussi ce qu'on adore chez elle.
Merci, pff, génial. Voilà. Si vous aviez dû faire mon nom de famille, vous auriez galéré parce que c'est que des lettres nulles, genre G.
Bah, Pénélope, il y avait quand même
on aurait dit génial,
c'est vrai.
Et oui.
Y avait beaucoup de lettres surtout. C'est Pénélope, vrai. Je crois que tu as la palme du prénom le plus long. Oui. Où vraiment on était là. Ouh, ça va que t'as fait beaucoup de choses. Ouais, ceci dit, ça va vraiment. Et effectivement, vraiment, on va un peu genre chercher sur Wikipédia ou quoi. Ta fiche Wikipédia, elle est très longue.
Très très longue.
Il y a beaucoup de choses, c'est trop cool. Mais donc le début, on est d'accord que c'était donc le fameux blog.
Ouais.
Et tu lances un blog et 3 ans plus tard, tu publies chez Gallimard.
Ouais, c'est vrai, dit comme ça, c'est vrai. Ouais.
C'est quand même...
C'est vraiment cool. C'est vrai.
Oui.
J'avais fait un blog qui a été, au bout de 3 mois, on m'a proposé d'en faire un livre. Et je n'avais jamais pensé à faire des livres. Donc c'était...
Tu voulais pas faire ça à la base ?
Ben
voulais
non, pas du tout.
Être dessinatrice ?
Alors dessinatrice, si. C'était mon métier à ce moment-là.
Mais pas de BD.
Pas de BD, non. Je faisais de l'illustration. Donc plutôt des... Les gens souvent ils voient pas la différence entre la BD et l'illustration, donc je précise. Quand tu illustres, tu inventes pas de choses, tu illustres une couve de livre ou une affiche de théâtre ou une pub où on te dit on aurait besoin que le dessin ce soit une meuf qui fait tel truc et qui
c'est
boit son
thé. C'est une commande quoi.
Voilà, donc tu fais, tu essaies de faire le plus joli possible avec un brief qu'on t'a donné.
Il y a pas de création de scénario en fait.
Ouais, et puis tu dessines pas ce que tu veux surtout. Tu dis pas okay. Peut-être, mais moi ce que je voulais c'était faire un rhinocéros. Je dis oui, mais là c'est vraiment pour du thé, donc tu vas faire ce qu'on te demande. Et mais dans mon coin, je faisais des petits dessins de mon journal depuis que j'ai 5 ans en fait. Donc c'était ça en fait mon blog, c'était raconter la même chose que ce que j'ai tout le temps fait mais en le montrant à des gens. Et après au bout d'un moment, c'était un livre. Et après au même moment, on m'a proposé de faire une BD du coup pour de vrai qui s'appelait Joséphine, donc oui. Que vous avez mentionné dans un magazine toutes les semaines. Et au bout du 3e bouquin de Joséphine, je me suis dit ouais, c'est en fait je sais faire vraiment des livres et j'aime bien ça. Ils sont peut-être pas parfaits mais en tout cas j'en vends assez pour en vivre. Donc
dans tes livres, c'est toi qui fais les dessins, mais tu fais aussi le scénario,
voilà,
enfin, l'histoire.
C'est ça.
Là, cette fois, tu crées tout.
Exactement. Et effectivement, après, du coup, le directeur de collection des bandes dessinées Gallimard, qui s'appelle Johan Sfar, m'a proposé de faire une BD.
Ok.
Et voilà. Mais c'était le début d'une merveilleuse collaboration avec Gallimard, qui dure jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est que ça se passe bien.
Voilà. Tu penses, parce que quand on crée un blog ou je sais pas ce qui aujourd'hui serait l'équivalent, mais ça pourrait encore arriver aujourd'hui, je sais pas, c'est pas pour donner de l'espoir aux gens ou quoi, mais Tu vois, il y a un truc de est-ce que t'étais la perle rare qu'ils ont trouvée ou est-ce que c'était le bon moment pour faire un blog et être découverte ou enfin tu vois qu'est-ce qui t'a poussé c'est vraiment le talent, ce qui serait vraiment possible parce que t'en as beaucoup, mais non, mais c'est vrai. Mais où
je fais une petite
tu vois
tête, que vous avez pas le son, mais
elle adore. Elle fait genre non quand même, arrêtez.
Oh, je vais rougir.
Non, je t'ai plus.
Je vais cacher mon visage dans le ventre de ce chat.
Tu vois ce que je veux dire, c'est est-ce que demain, si quelqu'un se met à créer un blog avec des dessins, il y a vraiment, est-ce que t'étais au bon endroit au bon moment, tu dirais quoi?
Je pense que le format blog, il était terminé, mais il y a des histoires tout à fait similaires qui arrivent aujourd'hui avec Instagram.
Oui, c'est ça.
Ouais. Donc, mais c'était vraiment l'époque des blogs, quoi. J'étais pile au moment des blogs et puis c'était le moment où les gens lisaient des blogs BD vachement. C'était vraiment le pour les plus jeunes, c'était un moment où vraiment ça faisait partie de la routine du matin de plein de gens en fait. Ils avaient un fil RSS, oui, dans lequel il y avait des blogs et tous les matins tu disais alors qu'est-ce que Boulet a fait ce matin, qu'est-ce que machin, et donc c'était ce moment là en fait. Et je pense qu'effectivement il y a beaucoup d'éditeurs qui se sont dit que c'était un peu la ruée vers l'or et qu'il fallait éditer des blogueurs. Je pense que nous, on était un peu les premiers en termes de chronologie, justement, avec Boulet et les gens comme ça. Et après, les éditeurs se sont rendus compte que malheureusement, il n'y avait pas d'automatisme commercial. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu avais beaucoup de gens qui regardaient ton blog tous les jours que tous ces gens allaient acheter ton livre. Mmh. Et qu'en fait, cette formule ne marchait pas. Et donc, ils ont arrêté un peu de faire ça. Mais il y a eu, pendant 2 ans, je pense que vraiment la moitié des rayons de BD, des nouveautés, c'était juste des blogs adaptés. Et je pense aussi qu'à l'époque, on n'avait pas le recul de se dire ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, il ne faut pas juste imprimer des pages de blog dans un livre, ce qui est complètement le cas du mien. C'est vraiment, il y a eu 0 édito dessus, quoi. Et du coup, c'est des strips, mais c'est la même chose que ce qu'il y avait sur... Et d'ailleurs, 100% de ce qu'il y avait dans le livre était encore dispo gratuitement en ligne 10 ans après. Donc...
Mais les gens ont quand même acheté.
Et ouais, et d'ailleurs...
Ils ont trouvé leur public. Ça veut dire que c'était un autre public, en fait.
Ouais, probablement. Je pense que l'idée, c'était... T'aimes bien le blog, t'as envie d'avoir l'objet. Mmh. T'as envie de le faire lire à des gens qui sont un peu rebutés par le côté blog, ou que ça ne branche pas trop. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été la même chose après quand j'ai fait Les Culottés, c'est que j'ai voulu que ça reste gratuit en ligne, pareil, en fait. C'est-à-dire que tu pouvais continuer à lire Les Culottés 100% du bouquin gratuitement et ça n'a pas empêché les gens d'acheter le livre.
Ah oui, Les Culottés, c'est gratuit en ligne ?
Et bien là, je crois que Le Monde les a virés enfin, okay. Mais pendant les 3 premières années, tu pouvais continuer à les lire.
Mais c'est tellement bien d'avoir les objets livres,
ah oui,
pour le coup. Oh, sur
et
ce...
puis il est beau, hein, Le Culotté, ouais, l'intégrale, moi j'en ai.
Moi je les ai aussi, je vous conseille aussi de les acheter parce qu'en bouquin, c'est quand même cool. D'ailleurs, Les Culottés,
ouais.
Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, je vous invite vraiment à découvrir. En plus, on l'avait conseillé, je crois, dans un autre podcast, ça faisait partie de nos
conseils. Oui,
nos
moi je suis vraiment trop sympa. Oui.
Et c'est donc, il s'agit de portraits de femmes à travers l'histoire qui ont été culottées, c'est-à-dire qui ont fait quelque chose.
Qui ont marqué l'histoire.
Qui ont marqué l'histoire.
Fait des trucs de badass.
Nous, aujourd'hui, je sais qu'on s'en sert, comme référence quand pour contrer la fameuse phrase « les femmes n'ont pas fait grand-chose par rapport aux hommes dans l'histoire », est-ce que toi, quand tu l'as créé, c'est ça aussi qui te portait ou pas du tout, pas spécialement ?
Non. J'adorerais réécrire l'histoire, non, à dire que c'était ça.
Non, je trouve ça...
Vraiment, moi, c'est... À chaque fois, c'est des trucs méga égoïstes qui font que je fais les livres. Et c'était parce que moi, à ce moment-là, j'avais vraiment hyper envie de lire des bios et de dessiner des bios. Donc je me suis dit « hey, moi, ça m'intéresse. Donc c'est OK pour moi de passer 1 an et demi à faire que ça. Alors du coup, faisons un livre. » Et en fait, c'était un moment où ça faisait un certain temps qu'avec Le Monde, on se demandait ce que je pourrais faire qui serait un truc feuilletonnant chez eux. Et c'était aussi un moment où chez Gallimard, ils me faisaient un peu « ça fait quand même un moment que t'as pas fait de livre ». Et je me suis dit, mais attends. Et ce qui est fou, c'est que les deux, le même jour, je leur ai dit, j'ai un truc, je voudrais chaque semaine parler d'une femme que les gens connaissent pas, ou en tout cas, où j'ai la prétention de penser que les gens les connaissent pas et que c'est moi qui vais leur faire découvrir. Et leur histoire est super cool. Elles ont tout un truc qui fait que je m'identifie à elles à fond et que j'ai hyper envie d'en parler. Et ce serait juste ça. That's it, that's the joke, quoi. Ce sera une femme par semaine, et à la fin, il y en aurait, et puis après, j'ai vraiment tiré aux fléchettes un nombre, je dis 30. Il y en aura 30, et voilà. Et des deux côtés, avec vachement de gentillesse et tout, mais il y a eu pas mal de perplexité, quoi. C'est-à-dire que les deux m'ont dit, d'accord, mais du coup, c'est juste ça. Je dis, bah ouais. Ils m'ont dit, mais il y aurait vraiment que des femmes. Je dis, bah ouais, du coup, il y aurait vraiment que des femmes, parce qu'en fait, ça arrive jamais. Donc, ce serait juste ça, en fait. Ok, si tu penses que, ouais, si tu penses que ça peut suffire. Je dis, ouais, je pense que ça peut suffire. Voilà.
Et le fait que ça ait marché et que ça ait suffi, est-ce que ça les a fait réfléchir d'une certaine manière ? Parce que, effectivement, si on y réfléchit, c'est vraiment que ça, c'est des portraits de femmes. Mais le fait est qu'aujourd'hui, les portraits de femmes, des livres où il n'y a que des portraits de femmes qui ont fait des choses, il n'y en avait pas trop avant. Et on en a besoin pour évoluer, pour créer des vocations, etc.
Alors, je pense que ce qui est sûr, c'est que un succès commercial, ça aide les éditeurs à se dire c'est vrai que c'est vraiment une super idée et qu'en fait on aurait dû en faire vachement plus. Après, j'ai pas du tout la prétention d'avoir inventé la roue, et des livres qui parlent de femmes, il y en a, il y en avait beaucoup avant, beaucoup pendant, beaucoup après. Mais moi, j'ai jamais douté du fait que ça marcherait. Enfin, si, il y a une semaine avant la sortie, je faisais cacamou en me disant qu'est-ce qui va se passer si j'en vends aucun. Mais sinon, globalement, comme souvent quand je fais des livres, je suis à peu près sûre que j'ai raison de le faire et que c'est bien. Donc voilà. Et non, mais ce qui était chouette, c'est que ça a marché beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'ils imaginaient. Et que du coup, ils se sont dit bon, bah, en fait, ok, ça peut, c'est un sujet, peu importe la forme que ça prend, c'est un sujet qui mérite de faire un livre. Et ça a amené un public que je n'avais pas du tout. C'est-à-dire que ça m'a vraiment amené un public jeunesse, ce qui était nouveau, puisque c'est un livre qui a été beaucoup offert aux petites filles, aux jeunes filles.
Ouais.
Et donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de jeunes lectrices. Là, je suis extrêmement jalouse. Il faut quand même m'expliquer en off que le chat m'a désertée. Malgré venir... tout l'amour que je lui porte,
pour venir ingrate. Sur mes genoux, si alors... vous me connaissez, vous savez que.
Mais bon. Non, mais ce qui est fou, c'est vraiment le naturel, comme un lundi, quoi. Hop là, j'arrive, je me mets sur tes genoux, puis voilà.
Elle a traversé Justine.
Mais oui.
Elle s'est posée sur moi, et bon.
Comme une évidence. Avec est-ce Camille que c'est pas qui tire une tête.
Est-ce que c'est pas un petit peu parce que t'as un collant et qu'elle, du coup, avec ses griffes, ouais. elle a envie de faire une connerie.
Ça va être super agréable comme ouais, moment.
De te faire des trous dans le collant.
Déjà, je l'adore.
Bon, bah, je suis vexée, mais comme un pou.
Est-ce que. Parce que. Le milieu de la BD, comme en fait tous les milieux, sont sexistes. Enfin, en tout cas, il y a eu aussi. Est-ce que c'est. Ça te saoule si on en reparle ou pas, mais
tout.
Je sais qu'il y a eu un petit
non,
scandale, si je peux l'appeler comme ça. C'était au festival de BD d'Angoulême, non ? Où il n'y avait que des hommes qui avaient été nommés. Ou,
tout
en
à
gros.
Fait.
Tout est, tu l'expliqueras mieux que moi, mais ça a bougé. Ah bah quel
oui.
est ton.
Je trouve que ça a bougé. Oui. Pourtant, je suis la première à toujours trouver que ça bouge pas assez et que j'arrive pas à me réjouir des miettes qu'on gagne.
Tu peux nous recontextualiser un tout petit peu.
En fait, donc le festival de la BD d'Angoulême, qui est le plus gros festival de la BD du monde. Et donc chaque année, il y a plein de prix. Il y a les prix des livres de l'année, donc meilleur album, meilleur premier album et tout. Et puis chaque année, il y a un prix en dehors des prix qui est le grand prix de la ville d'Angoulême. Et ça, c'est un collège d'auteurs qui eux-mêmes ont été grand prix dans le passé, qui se réunissent. Vraiment comme pour les papes, et qui disent « cette année, ce sera cette personne qui sera Grand Prix ». Et au bout d'un moment, on leur a reproché le fait que c'était pas hyper démocratique, parce que du coup, logiquement, ils vont juste mettre tous leurs potes, les uns après les autres. Mmh. Ce que je ferais, hein, si avec mes copines, on devait choisir une nouvelle personne, prendre une copine. Et donc, ils ont dit « ok, on va revoir notre façon de procéder. Maintenant, on va demander à tous les auteurs et à tous les professionnels de la bande dessinée de voter dans une liste qu'on va leur suggérer, et c'est à eux de nous dire qui sera la personne ». Donc, ils ont proposé 40 noms. Aux auteurs et aux autrices de bande dessinée pour qu'ils choisissent. Et dans les 40 ans, il n'y avait pas de femmes. Wow. Ils ont dit choisissez parmi ces 40 mecs.
Mais parce qu'il n'y avait pas de femmes en fait qui faisaient de la BD.
C'est exactement ce qu'a répondu le directeur du festival d'Angoulême pour se justifier. Il a dit on aurait bien aimé, mais il n'y en avait pas.
Ouais.
Donc là, on a été.
Et alors que tous les hommes sélectionnés étaient des génies, évidemment.
Bien sûr. Et non, mais surtout que vraiment, il y en a vraiment pas mal des femmes en fait. Donc, ouais. Nous, on a vraiment doublement apprécié. La double peine du « il n'y en a pas », et en plus on vous le verbalise, il n'y a pas de femme.
Vous qui êtes autrice de BD.
C'est ça. Ah.
C'est scandaleux.
Donc on n'était pas contentes.
0 sur 40.
On s'est vraiment énervé. Et puis du coup, il y a un collectif des créatrices de bande dessinée qui est un petit peu monté au créneau.
Je me souviens.
Notamment sous l'impulsion de Jules Marot. Et du coup, ils ont dit « oh d'accord, oh là là, ça va. Bon ben, puisque vous n'êtes jamais contentes, et ben voilà, il n'y a pas de liste. Et les noms, ils sont spontanés. Vous... » proposer des noms, et les trois noms qui sortiront le plus, eh ben, ce sera le tiercé gagnant. Et après, vous revoterez un deuxième coup parmi ces trois noms et tout ça. Donc, allez-y, puisque vous êtes si maligne, dites-nous des noms de meufs pour voir.
Okay.
Et en fait, très rapidement, méga surprise, il y a eu des femmes qui ont été Grand Prix, puisqu'en fait, on a trouvé des noms. Et comme nous, on est plutôt... je sais pas comment dire, est-ce qu'on est corporate, je sais pas, mais il y a vraiment eu beaucoup de noms de femmes qui sont sortis. Et cette année, par exemple, pour la première fois, les trois noms qui sont sortis étaient des noms d'autrices.
Ok.
Donc ça, c'est vraiment un signe.
Comme quoi ?
Voilà.
Comme quoi, ce serait pas un petit effet boule de neige, par hasard.
Et surtout, ce qui est dingue, c'est que même les pires mauvaises langues, les pires mauvaises voix qui pourraient dire oui, alors parce qu'en ce moment c'est la mode, tu dis, et non, c'est spontanément, tous les auteurs doivent ces trois noms, et dans ces trois noms, c'est trois femmes. Donc ça veut quand même dire qu'il y a, je pense que surtout qu'il y a un retard à rattraper en fait, parce que du coup on se dit, attends, Machine, elle est toujours pas à Grand Prix, il est temps, tu vois. Okay. C'est plutôt ça, c'est que je pense que pendant quelques années, il va falloir qu'on. Et celle qui a gagné cette année, Julie Doucet. C'est vraiment tout un symbole parce que c'était une autrice de BD qui fait des BD très autobio, mais hyper trash, hyper punk, où elle raconte plein de trucs qui mettaient les auteurs de BD très mal à l'aise à l'époque. Notamment, elle parlait beaucoup de règles. Et elle s'était éloignée de la BD, notamment parce qu'elle disait « c'est un milieu qui m'épuise tellement il est sexiste ». Et donc, elle s'est barrée, elle a arrêté de faire de la BD. Et puis là, elle revient en étant Grand Prix. Ah. Donc, c'était
en 2016, pour info, voilà. le scandale.
Le scandale.
Donc, on est 7 ans après.
Ouais.
Et... il y a trois femmes maintenant qui peuvent être nommées dans le tiercé.
Exactement. Et donc, c'est incroyable. Et vraiment, s'il y a bien des outils qui permettent de mesurer le chemin, je pense que c'est celui des institutions. C'est-à-dire, on ne peut pas faire quelque chose pour la parité créative. On ne peut pas dire comment savoir qui sont les autrices, qui machin, mais te dire un truc aussi bête et méchant qu'un festival qui doit sortir trois noms, bah, il sort trois femmes. C'est quand même qu'il y a des choses qui se passent. Quoi.
Donc, quand les féministes gueulent pour des soucis d'inégalité qui passent inaperçus pour plein de gens, d'hommes surtout, eh bien, ça porte ses fruits.
Voilà. Oui, et c'est bien dans le cinéma, il y a eu 50-50 qui a fait la même chose. C'est vouloir obliger les institutions à se remuer. En fait, ça envoie un signal tellement fort à une jeune génération d'artistes. C'est que je me dis, une jeune fille qui s'intéresse à la BD et qui a envie de commencer à faire de la BD maintenant, elle démarre maintenant, et pas il y a 10 ans. Donc, elle n'est pas au courant de tout ce qui a dû se passer avant pour arriver là, comme souvent dans les luttes féministes. Et du coup, elle se dit, bah ouais, la BD, pourquoi pas? Voyons, c'est qui les gens un peu? Ah, bah c'est 3 meufs. Bah ouais, c'est vraiment un milieu où c'est cool.
Accessible, ouais.
Et...
ça change toute la légitimité. En fait. Enfin, ça ne questionne plus, en tout cas, la légitimité. C'est pas genre, je vais être une femme au milieu des hommes, va falloir faire mes preuves, porter le poids d'être la seule femme qui représente. T'arrives et t'es au milieu d'autres gens et en fait t'as le droit aussi d'être un nombre parmi t'es pas obligé d'être l'exception, enfin,
bien c'est... sûr
ça vraiment le jour où on arrêtera dans la plupart des milieux d'être l'exception, ça va nous enlever un sacré poids des épaules, quoi.
C'est ça, je pense qu'à partir de 2 c'est bien parce qu'on a le droit à une singularité et pas juste être la femme, ce qu'on appelle le syndrome de la trompette dans la BD. Si on a qu'une
partout d'ailleurs on l'appelle comme ça partout,
mais ça en BD c'est encore plus dans la c'est vrai, c'est vrai. Et de dire bah moi je suis la fille, c'est ça mon truc, je suis la fille, lui c'est un auteur de BD de SF, lui il fait de l'aventure, lui il fait du machin et moi je suis une fille, c'est ça mon truc. À partir du moment où on est 2, ah là c'est la stupeur, alors du coup comment on vous appelle, voilà. Et en fait quand tu vois les jeunes générations dans la BD, c'est tellement de meufs que c'est merveilleux. Quand tu vas à Angoulême et que tu vois le nombre de jeunes autrices, ça te... ton cœur s'échauffe. Et en plus de
oui, on n'est pas jalouses les unes des autres. On n'est pas en train de se souhaiter du mal pour être toujours la fille. On a dépassé ça aussi.
Non, on préfère d'ailleurs, comme tu dis, ne pas être la fille et l'exception juste parce que je suis une fille. Non, on veut être reconnue pour notre talent, en fait.
Je pense que ça te retourne forcément contre toi d'avoir comme seul argument de vente d'être la fille parce qu'on a envie que tu restes vraiment dans une case qui, en fait, est merdique. Et dès que tu prétends à plus, on te fait reste quand même à ta place, t'es là pour être la fille. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est un peu un traquenard, quoi. Alors que dès qu'on est 10, 12, tu vois, typiquement, ce truc de collectif des créatrices de bande dessinée, jamais on n'aurait rien obtenu seul. Alors que là, quand ils ont dit oh là là, vous êtes hyper nombreuses, merde. Et ben du coup, ça a un peu bougé. Donc, ça vraiment, j'en suis persuadée et c'est le travail qui me l'a prouvé, la puissance du collectif pour des problèmes que tu rencontres et où, a priori, c'est assez probable que tu ne sois pas la seule à les rencontrer. Mettre en commun tes problèmes avec d'autres meufs et te dire « D'accord, donc en fait, c'est nous toutes qui en chions du même truc, alors mettons-nous ensemble. » Moi, ça a changé ma vie dans la BD. Et les jeunes autrices, tu vois, avec qui je parle, des nanas qui ont 20 ans, quoi, elles ont tellement déjà compris ça, quel chemin à l'accélérer, quoi. Elles sont trop fortes.
Eh bien, c'est le moment de passer au bol à questions pour parler d'autres de sujets divers et variés. Alors, avant, évidemment, de piocher, parce que je vois que tu veux piocher, tu vas nous faire un petit jingle, si tu veux bien. Donc, un petit jingle pour dire qu'on fait les bols à questions.
Mais alors, moi, je trouve que c'est pas des bols, c'est des petits ramequins.
Oui. Bah, tu peux faire un jingle ramequin.
La formule est moins catchy, mais pour moi, c'est l'heure des ramequins avec Chill and Deep.
T'as pioché dans quoi, alors?
Super chill.
Allez, super chill.
Un mot ou une expression que tu avais toujours mal prononcée ou mal comprise. Il y a un mot qu'encore aujourd'hui, je sais que j'emploie mal parce que c'est jamais le bon moment de googler pour savoir ce qu'il veut dire exactement. Donc, je l'emploie de plus en plus, enfin, de moins en moins approximativement parce que j'ai l'impression que petit à petit, j'affine mon truc. Mais gageur, je ne sais pas. Voilà. Donc, je crois que ça veut dire plus ou moins une épreuve. Quand tu dis « Oh, c'est véritablement
tu veux qu'on
une
fasse...
gageur !»
Tu veux qu'on vérifie ou tu préfères continuer à tâtonner? Parce que là, j'ai un téléphone avec Google.
Attendez, c'est un mot français, là?
Ouais. Oui, c'est une gageure.
J'adore le dédain. Oui, une gageure.
Non, pardon. Voilà.
Non, mais
putain, je suis désolée. Ça se fait pas.
Non, je suis désolée. Et je suis très désolée.
Écoute, j'ai envie que ça soit un petit peu interactif, ce moment. Donc, alors, allons-y.
Alors, une gageure, parce que...
Alors, gageure.
Ouais. Au sens, vieux, parce que c'est au sens vieux, gageur. Ça veut dire Paris, assorti de gage. Rien compris.
Ah,
au sens
oui,
littéraire, opinion qui semble relever d'un défi, d'un pari. Action ou opinion. Donc en gros, c'est une gageure, c'est genre.
C'est un peu un saut dans le vide, un peu un défi. Un truc de foi, quoi. Genre, allez, on y croit, je me lance. Quoi.
Par exemple, je sais pas, moi, dire. Quand ça sonne, imagine, dis, oh, ça doit être le facteur. Non, là, quand même, pas pareil, ça pas logique.
Moi, je le prends plutôt dans le. Écoute, la gare est à un quart d'heure, mais je pense que je peux l'avoir. Et on dit, sacré gageur, dans le sens. tu vois, tu joues un peu avec le destin, tu tentes un truc, quoi. Bon. Tu vois.
Donc, ce serait quoi le synonyme, par exemple, de gageur?
Bah, du coup,
c'est un pari risqué.
Un pari risqué. Ouais.
Tu vois, allez, parions là-dessus. Enfin, c'est une gageure, quoi.
Je vais plutôt continuer à mal l'employer, alors.
Je vais arriver à 20h30, mais vu que je prends le métro et qu'il y a des grèves, c'est une gageure.
Mais c'est une gageure ou c'est oui, toi la gageure?
Non,
c'est pour qualifier
l'action
quelqu'un.
L'action est une gageure.
Ah, c'est l'action. Ouais. Oh, ça m'a saoulé. Ah, j'aime pas trop. C'est compliqué.
Je voulais pas non plus jeter un pavé dans la mare.
Non, mais la vérité, c'est que je pense que tu vas continuer à l'utiliser de manière hasardeuse parce qu'on n'est quand même pas encore
pas sûr. Ça passera bien.
Ouais. Et parfois, ça passera pas.
Watch me placer surtout, gageure dans des.
Il y a peu de chances que tu tombes dans une assemblée où tous les autres gens se disent « Tu l'as très mal employé, Pénélope.
Ouais, » Ou les gens se regardent entre eux, genre « Ça veut pas du tout dire ça. »
Oui, tu vois. Et toi, Justine?
Moi, c'est les CQFD, NDLR, là. J'ai compris ce que ça voulait dire, mais quand même...
C'est pas la même chose que MDR, tu as su.
Non, mais quand même, je comprends pas trop. CQFD, ce qu'il fallait dire, j'ai toujours pas très...
Ce qu'il fallait démontrer.
Ce qu'il fallait démontrer.
Ouais. Bah, du coup, c'est à la fin d'une démonstration. C'est CQFD, genre mais... je t'explique, bah, là tout ce que je fais là, par A plus B, je t'explique et je dis CQFD.
C'est voilà en général, ce mais pourquoi le préciser à la
Parce
fin,
que c'est hyper ce condescendant comme expression.
Ah oui, d'accord. Ah, okay.
C'est que quelqu'un qui dit CQFD, tu peux le mettre dans une petite case pour moi. C'est quelqu'un qui te fait, voilà, CQFD.
Mais personne dit ça à l'oral, pitié.
Non, sinon, mais même quand je le lis, je me dis, bah, j'ai compris que c'est ce que tu venais de démontrer. Pourquoi tu me le précises en quatre lettres?
Et d'ailleurs, je pense un peu à vôtre, mais je trouve que même dire NDLR, il y a un tout petit côté condescendant.
Oui, parce que.
Non, mais dans les articles de presse, quand il y a marqué machin, qui était roi de France, de Télénor, NDLR. Pareil, il y a un petit côté...
je sais
désolé les cons, tu vois.
Bah oui, c'est ça. Mais je crois que quand c'est NDLR, c'est par exemple là où je trouve que ça va et c'est pas condescendant, c'est si c'est dans un interview.
Oui.
Et, genre, et de rajouter NDLR, ça sous-entend c'est pas... Genre,
c'est pas lui qui dit
interview, c'est pas Justine qui a dit ça, c'est moi qui rajoute parce que j'ai contextualisé.
Ok. Ouais.
Mais bon.
Tu note peux de mettre en italique et on comprend que c'est plus la personne qui le dit, quoi.
NDLR,
Et il y a un autre truc dernièrement que j'ai mis 1000 ans à comprendre. Alors là, j'aurais juste pu me renseigner, mais je le voyais écrit partout et je voulais pas. Je voulais essayer de comprendre par moi-même. C'est POV, donc Point of View, que vous voyez partout sur TikTok.
Oh bah, je pense que tu peux l'expliquer, ça fera pas de mal à plein de gens qui
nous écoutent. Mais alors, donc POV, Point of View, POV et tout. POV, voilà. Pourquoi?
Enfin, ça vient du porno. Je ne
comprends toujours pas.
Ah, ça vient du porno? Ou ça vient des jeux vidéo? Du porno, alors.
Ah, moi, je crois.
En tout cas, pour toi.
Quelqu'un m'a dit, moi, j'en sais rien. Mais attends, et alors, je vois ça sur énormément de vidéos de gens qui font des vidéos sur TikTok et qui écrivent POV.
Non, mais ils l'utilisent mal, je crois.
Mais pour rien dire, POV, tu vas à la crèche? Bah, écris juste, tu vas à la crèche. Enfin, je le vois bien. Pourquoi tu me mets dans mon point of view à moi? Je le vois.
Surtout, POV, normalement, ça veut dire qu'on est dans la personne, si j'ai bien compris.
Ouais, mais je pense que ses yeux. Que utiliser POV comme ça, c'est un peu is the new, les trucs où pendant un an, c'est une expression consacrée dans tous les mèmes.
Ah ouais.
Genre, tu sais que t'es nana quand tu vois, tu fais, mais en fait, ça n'a plus aucun rapport, arrêtez d'écrire ça.
Oui. Personne, deux points, moi.
Ouais, exactement.
Il y a plein de fois, les gens, ils font ça et en fait, ils ont juste envie de dire un truc sur eux. Bah, dire un truc sur toi.
Moi, quand
personne, vraiment personne. Je fais, bah, arrête, écris ta phrase.
Bon, bah, s'il y a vraiment personne, allez.
Bah, voilà. Moi, et bah, mettre des chaussettes sur la tête.
Oui. Le POV, là, c'est ça, je le vois partout. Il y a des gens qui l'utilisent vraiment. Pour
oui, bah,
rien,
si t'aimes pas la mode, n'en dégoûte pas les autres.
Bon, voilà, c'est ce POV là qui. Bon, voilà, c'est plus des trucs qui m'agacent.
Oui. Bon, toi, t'es pas très acronyme en tout cas.
Mais qui
toute seule, c'est pas ton.
C'est pas ta cam.
Pas fan.
Et moi, toi je vais avouer un truc.
Oh là là, t'as appris il y a pas longtemps.
Enfin, si t'as un doute, en fait, maintenant, je aussi, on peut vérifier.
Ah, bah, non, crois-moi bien qu'il n'y a pas de doute. Mais c'est un peu la honte. Mais je sais pas, j'ai appris très tard que l'huile de coude, ça voulait dire faire un truc à la force de ses bras.
C'est pas un vrai produit.
En fait, dans ma tête, je me rends bien compte que le coude, c'est pas, ça peut pas créer de l'huile, mais pour moi, c'était...
Ah, carrément, toi, c'est ça?
Non.
C'est pas de l'huile pour hydrater les coudes?
Non.
Ce serait carrément un coude qui est produit.
Oui, mais pour moi,
ah, moi, j'ai toujours compris comme ça aussi. Hein. Ça voulait dire que le coude fabrique de l'huile, comme de l'huile d'arachide.
Pour moi, on fait de l'huile de ricin, de l'huile d'arachide, de l'huile d'olive. Et donc, je me disais, quand un truc... Enfin, de l'huile de coude. En fait, c'est comme si c'était un surnom pour une huile spéciale de garagiste. Enfin, tu vois, un truc que, effectivement, j'y connais rien en huile de garagiste. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc, je me disais, bon, l'huile de coude, ça doit être une huile que je connais pas. Oh là là. Et quand, un jour, j'ai découvert que l'huile de coude, ça voulait dire à la force des bras, en fait. Je me suis vraiment sentie bête.
Mais il y a une très grande quantité de gens qui l'ont découvert sur
les bras.
Il y en a beaucoup. Pour moi, c'est le logo Carrefour des expressions, l'huile de coude, parce que vraiment 100% des gens, un jour, font d'accord.
C'est pas vrai,
c'est
parce que moi on m'a dit que j'étais bête.
Non, bah, enfin, c'est quelqu'un de très méchant.
Mais l'huile de coude, bah ça paraissait super logique pour les autres. Ouais, l'huile de coude, mais non, ça veut dire que tu dois le faire toi-même.
Non, mais non, en plus c'est une expression, ça porte à confusion, et ça veut clairement dire autre chose aussi.
Vous êtes gentil avec moi.
Et en plus c'est plus très employé.
Oui. Moi, j'ai quand même un pote qui a appris très très tard, il y a vraiment que quelques années, que H24, c'était H24. Lui, pendant 1000 ans, il disait âge 24.
Oh, c'est un peu mignon. Donc pour lui, tout se passait à 24 ans.
Tout se passait à 24 ans. Un jour, il l'a écrit. Il a dit, oui, bah, on va pas faire ça, âge 24. Et nous, on a fait, hein,
à quel âge
c'est-à-dire.
Il faut arrêter de se moquer des gens, effectivement, qui n'ont pas les bonnes expressions. Hein, Justine, qui ne connaît pas le vocabulaire. Hein, quoi, je l'ai dit dans le micro. Ah,
Justine, qui ne sait pas faire un mot croisé force. Oh, hein.
Mais c'est normal, les mots fléchés, un ça... mot croisé, ouais. C'est dur.
J'ai une anecdote incroyable à vous révéler. C'est vraiment une vraie révélation. Ma mère, quand elle était plus jeune, pour se faire un petit peu de fric, comme pige, elle créait des mots croisés. Et vraiment, j'ai toujours. Pour moi, c'était vraiment.
Un cerveau.
Et elle me disait, bah, tu sais, c'est très simple. Hein. Donc elle me montrait, elle avait ses grilles vides. Elle faisait, bah, tu sais, j'en fais comme ça, 4-5 le soir, hop, ça fait un peu d'argent et tout. Elle faisait des mots croisés. Et pour moi, elle avait une case supplémentaire dans son cerveau. J'ai jamais compris. Elle m'a dit, mais, tu sais, je t'apprendrai. Mais je ne peux pas, maman. Je suis trop bête.
Un véritable casse-tête. Enfin,
c'est dingue, non?
Impossible. Moi, ma patience aurait des limites. Hein. Je pourrais...
Pour moi, c'était une machine qui inventait les mots croisés.
Ah, oui, moi aussi.
Mais non, c'était ma mère.
Ah ouais.
Une personne. Wow. Tu peux piocher une autre question si tu veux.
Ouais.
Pour,
Du coup, je vais prendre une dip. Je suis déjà en train de parler de ma mère. Alors, le portail est ouvert.
Ah oui, on doit tenir le micro. C'est pas pratique maintenant pour piocher les questions.
Oui, c'est vrai. Ça, c'est à prendre en bidex. Ouais. Qu'aimes-tu vraiment chez toi? Ouh, plein de choses. Qu'aimes-tu vraiment chez toi? En fait, c'est vachement dur comme question. Mm-hmm. J'aimais mieux les expressions.
Ah, mais t'es allée dans
c'est
deep.
Hein. Bah, forcément.
Bah, c'est pas non plus le bout du monde, mais je trouve que j'apprends vachement bien du passé. Bah, franchement, à mon âge, ça commence à être assez frappant, quoi. Je trouve que vraiment, j'arrive hyper vite à aller piocher dans mes archives perso une situation un petit peu proche et me dire, ouais, non, ça je connais. Mmh. Je
donc
sais.
Tes erreurs du passé, tu veux dire?
Ouais, j'en fais un truc. Mmh. Parfois, il faut que je la fasse 4 fois, mais tu vois, au bout d'un moment, je fais, non, ça je sais. Je me connais en fait et je me dis, ouais, ça va pas. Je sais que c'est pas mon truc, ça va pas marcher, que tel type de personne va me saouler très vite. Donc, quand même, j'utilise bien mes archives, je trouve. Voilà.
C'est ça, bien c'est... ça. Depuis toujours ou depuis
peu? Force.
Ouais.
Et comme tous les traits de caractère, ils s'accentuent avec l'âge. Mmh. Mais comme tout ce genre de traits de caractère, vraiment, ils deviennent super utiles et super... Enfin, ça te rend quand même vraiment plus intelligente à partir de... Ouais. Ben, que ce soit... Alors, quand c'est dans le perso, c'est sûr que c'est... ça met un peu de temps. Mais dans le boulot, par exemple, je trouve que je me suis vite dit, ouais, non, ça, par exemple. Ah, ok, je donne des exemples concrets, parce que concrets, sinon, j'arrête pas de dire des trucs qu'on comprend pas. Mais dans le travail, par exemple, à force, une fois, deux fois, trois fois, au fur et à mesure, j'égrène, je fais ça, ça me fait chier, ça, ça me fait chier, ça, ça me fait chier. Et j'ai réussi à identifier les éléments communs à tous les projets qui ont fini par me faire chier. Et que du coup, j'ai soit abandonné, soit mal fait. Et donc, quand le sujet se représente sur la table et qu'on me dit, hé, regarde, tu voudrais faire ce truc-là, je me dis, non, je connais, ça va me faire chier. Et même si parfois, sur le coup, ça a l'air génial, je me dis, non, n'oublie pas. Et je peux aller ressortir les doses et me dire, ça va te faire chier. Et du coup, j'ai la sagesse de dire, non, merci.
Et donc, de savoir dire non aussi.
C'est tellement bien dire non.
Okay.
Mais pour le coup, ça, c'est un truc qui est arrivé très tard. Parce qu'avant, pour toutes les raisons qu'on connaît, et si jamais on ne me propose plus jamais rien après, et si ça fait prétentieux de dire non, et si en fait, peut-être que justement, je peux changer d'avis en m'accrochant, tous les trucs qui sont faux. Et maintenant, je me dis, mais non, si ça te fait chier, c'est que ça va te faire chier. Et du coup, j'arrive bien à dire non. Donc, c'est bien parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un truc qui me fait chier dans le travail, par exemple. Et ça s'applique aussi pas mal au perso parce que j'ai plus tellement de gens autour de moi que je vois alors qu'ils ils m'apportent rien, voire ils me rendent minable. Alors que j'en ai quand même connu beaucoup, comme tout le monde. Mais maintenant, les gens où je me dis « c'est marrant, ça m'apporte que du négatif cette personne », j'arrive assez bien à faire « ouais, non, ça va pas marcher ».
Toi aussi, t'es un peu comme ça, non?
Moi?
Ouais.
Je suis pas sûre.
Non?
Moi, je suis pas sûre que je sache vraiment tirer des leçons du passé. Mais je sais bien dire non.
Oui,
voilà.
Je crois que tu sais bien dire non. Oui.
Selon les, en fait, ça dépend vraiment des contextes. Mais ouais, moi, ce que je peux effectivement me reconnaître, c'est que il y a vraiment certains contextes où j'ai pas de mal à dire non et à savoir. Mais c'est fou parce que dans d'autres contextes, pas du tout. Enfin, il y a vraiment certaines situations dans lesquelles.
Oui, parce que toi, dans le taf, tu dis pas trop non et après tu te plains.
Ouais. Donc c'est pour ça que je peux même pas dire je sais dire non, parce qu'il y a des gens qui vont dire ah tu sais bien dire non parce que j'ai du caractère d'une certaine manière.
Ouais.
Mais j'accepte aussi des trucs nuls et parfois je sais pas comment dire des trucs aux gens. Donc j'irai pas forcément là-dessus. Mais alors qu'est-ce que j'aime chez moi?
Qu'est-ce que tu aimes vraiment chez
toi? Qu'est-ce que j'aime vraiment chez moi?
c'est dur. Tu dois te lancer des fleurs.
Non, mais bah oui, mais au-delà de se lancer des fleurs, je me reconnais quelques qualités, mais de là à dire, c'est vraiment ça. Si je trouve ça très dur à répondre, ça m'énerve. J'ai l'impression de faire la fausse modeste.
Ouais. Oh non, vraiment, j'aime pas
la ponctualité.
voilà, là. La ponctualité.
Bon, c'est quoi l'autre qualité qui est grave dite sur les CV là?
Perfectionnisme. Ouais.
Non, ça c'est en défaut. Ah oui, en défaut, c'est que je suis perfectionniste.
Ah ouais, insupportable.
Insupportable. Non, mais je pense que ce que j'aime vraiment chez moi, c'est ma force, je pense. Je pense que je suis...
Ta force physique, par exemple, soulever des cartons?
Oui, voilà. Et j'ai pas besoin des hommes, ok? On verra quand il faudra porter des trucs lourds. Non, non, mais la force, effectivement, une certaine force de caractère qui peut me... En fait, qui me joue des tours, mais je crois que ça me... J'ai pas envie que ça change. Enfin, ça... Tant pis, c'est comme ça. C'est ce qui me permet d'être là, d'être présente, de faire beaucoup de choses et de continuer. Et en fait, d'avoir tous les défauts que j'ai, les manques de confiance, etc., et de pouvoir, malgré ça, faire plein de choses. Mmh. C'est que je trouve qu'il faut, quelque part, beaucoup de force à un autre emplacement.
Oui, surtout que c'est très peu valorisé. Le fait d'avoir de la force pour une femme.
Oui, effectivement. Ouais. D'être quelqu'un de fort, oui, c'est pas très valorisé.
C'est pas très recherché. Les femmes, elles sont faibles, en général.
C'est pas très recherché par les hommes, par exemple. Ouais. C'est pas une qualité qui me... Mais malgré, en fait, c'est ça, c'est que malgré tout ça, bah, je fais plein de choses, je mets plein de choses en place, j'ai plein d'humour, je fais plein, enfin voilà, il y a plein de sortes de réussites. Donc je trouve que, je sais pas, je dirais peut-être ouais, ça, c'est ça que j'aime bien.
C'est nul. Bien, oh là là, on galère quand on doit se faire des... Ouais, quand on tombe sur les questions deep où on doit se saucer un peu, parce qu'on a pas mal de questions comme ça, parce qu'on aime bien aussi dans ce podcast pouvoir
s'analyser
nous-mêmes. Bah ouais, parce qu'on le fait pas souvent, mais les autres le font pas forcément pour nous, donc c'est bien aussi de reconnaître nos valeurs.
Et alors la tienne?
Et moi, ce que j'aime bien chez moi, je pense que c'est, comment dire, ma fiabilité et ma... Ah, j'ai pas le mot. Un bon ami. Comment on dit ?
Loyauté ?
Ma loyauté, ouais, voilà. Ouais. Mais c'est pas celui-là que j'avais.
T'es un gars sûr, quoi.
Ouais, enfin, je suis un gars sûr.
T'es fiable.
Voilà, ma fiabilité, je pense. Ah, j'ai vraiment un mot sur le bout de la langue. Putain, j'ai jamais de vocab, c'est une cata. On peut compter sur moi, c'est ça que je veux dire. Je crois qu'on peut compter sur moi. Et c'est ça que j'aime bien chez moi.
Reliable.
C'est reliable. Ah,
mais c'est fou, je l'ai en anglais.
Désolé.
Mais comment on dit en français, même ? Bah, je crois que c'est
fiable. C'est vraiment ta fiabilité,
je crois aussi.
Reliable. Et donc ouais, voilà, moi je pense que c'est ça. Je sais pas s'il y a tant besoin de développer, mais en tout cas j'hésite pas. Je crois que c'est direct ce truc qui est une belle qualité, je pense.
Quelle personne incroyable on fabriquait en nous fusionnant toutes les trois.
Ouais, grave.
Vraiment une femme extraordinaire.
Grave.
Il veut sortir avec nous. Il a beaucoup de qualités.
Extrêmement qualifié. Et un chat.
Vos réponses m'intéressent plus dans Deep, donc je vais piocher Deep.
On a beaucoup d'invités.
J'ai vachement aimé aussi vos expressions, mais je préfère savoir ça. Alors, qu'est-ce qui...
Alors que quand tu as pioché, pardon, quand tu as dit oh c'était mieux les expressions.
Ouais, mais vous finalement... c'est mieux ce que vous dites. Qu'est-ce qui te donne de l'espoir? C'est trop facile, c'est la jeunesse bien sûr. Voilà, c'est les jeunes personnes qui me donnent de l'espoir parce que les vieilles personnes me donnent du désespoir. Et vraiment dans tous les domaines, de me dire si seulement on pouvait accélérer le moment où c'est ces gens-là qui vont décider plutôt que ma génération ou celle de mes parents, j'aimerais trop. Je parlais de la BD où pour moi c'est vraiment l'exemple le plus frappant, c'est vraiment il faut donner la place aux jeunes personnes. Je trouve dans tous les domaines, c'est vraiment...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
C'est ce qui donne de l'espoir et en même temps ce qui me désole pour eux parce que c'est de leur mettre tellement sur les épaules de dire je sais que c'est votre génération qui va nous sortir de cette merde. Je suis vraiment désolée pour eux, mais par exemple pour les culottés et pour d'autres BD, j'ai fait plein de rencontres scolaires, mais vraiment des hectotonnes de rencontres scolaires en lycée, et à chaque fois j'en sortais mais toute larmoyante et avec mon petit cœur en miettes en me disant elles sont tellement super, elles sont tellement plus intelligentes que moi au même âge, et voilà, ouais, super. Et puis créativement aussi, je trouve que c'est vraiment c'est de là qu'on peut puiser le plus d'espoir.
Voilà.
Bah, ça nous parle vachement quand tu dis qu'on compte sur la jeunesse et on a vraiment envie que ça aille très vite, là, le cercle, parce que nous, c'est ce qu'on dit tout le temps, on dit « allez, du balai, du balai, du balai », on a que envie que les vieilles institutions, ça dégage là et qu'on fasse place, enfin, on le visualise tellement, on a tellement l'image du « allez, fiou, 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 vite, vite, un cercle, là, on tourne et on laisse la place
aux jeunes, quoi. » Oui, parce que si c'est trop long, va être des nouveaux vieux qui vont...
ouais, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'a donné de l'espoir là. Aujourd'hui même, je suis tombée sur une vidéo, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai pas son nom, mais c'est une jeune activiste pour le climat qui s'est accrochée sur un terrain de tennis.
Ah oui,
là,
à Roland-Garros.
Oui, à Roland-Garros, vous avez
vu. Elle a fait 48 heures de garde avant.
Ouais. Et elle s'est accrochée du coup pendant un match très important, de la demi-finale ou la finale. Bref, donc un événement extrêmement regardé, Roland-Garros. Et elle s'est accrochée au filet avec un message en disant il nous reste 3 ans, enfin un truc voilà pour sauver la planète et du coup j'ai vu son interview et je me suis vraiment dit putain elle est jeune et elle s'en fout de se taper les 48 heures de garde-ave pour pouvoir faire son message et elle est interviewée et elle a les larmes aux yeux, elle est super touchante et déterminée et je me suis vraiment dit oh oui encore d'autres comme ça, enfin s'il vous plaît d'autres donc pareil la jeunesse là quand je vois ce genre de choses je me dis mais oui.
Ouais, alors qu'il faudrait qu'on arrive à travailler main dans la main. Moi, je ne me mets pas du tout dans la catégorie de la jeunesse, du coup. Mais c'est ce que dit Gloria Steinem à propos du féminisme, c'est que c'est deux générations qui se répondent parce qu'il y en a une qui a l'enthousiasme et l'énergie de faire des choses. Et il y a les vieilles, je me montre de la main pour les gens qui n'ont pas la visio, qui ont la putain de rage et qui ont un peu plus le pouvoir. Mmh. Voilà. Et qu'en fait, il faut vraiment se nourrir aussi de l'énergie... comme des vampires du militantisme. Ouais. Il faut se nourrir du sang frais des gens qui ont de l'espoir et de l'énergie. Parce que vraiment, d'ailleurs, je trouve que ça se sent, moi, quand je passe du temps à plutôt être en boucle avec des gens énervés, mais qui ont mon âge, c'est vraiment très plombé de désespoir et de tu vois, de bon, bah, de toute façon, à quoi bon il faut vraiment être jeune pour penser qu'on peut changer le monde, en fait.
Ouais.
Je crois. Ouais, c'est très gay ce que je raconte.
Bah oui, non, mais c'est vrai, bah, ils n'ont pas le choix. Enfin, sinon, bah oui. Je sais pas, tout le monde se suicide. Enfin, genre, ouais. Il faut vraiment qu'on se dise que
ouais,
ça va
puis
bouger,
même,
quoi.
Tu vois, laisser passer moins de trucs, tu vois, chez les filles de 20 ans qui ne laissent rien passer, tout ça. Moi, ouais. J'étais tellement abrutie à cet âge-là, quoi.
Ouais, ouais, c'est clair. Moi, je trouve que c'est ça aussi. Moi, j'allais aller vers ça qui me donne de l'espoir. C'est un peu bizarre et c'est presque un peu égocentré ce que je vais dire, mais c'est que tout ce pourquoi je me bats et le discours que je peux tenir. On va dire qu'il est reçu, je trouve, différemment. Ça peut me donner un vague espoir. Moi, en ce moment, je suis très désespérée à l'échelle, pas pour le coup, pour une fois, pas sur mon petit nombril, mais à l'échelle du monde. Je suis très, 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 très pessimiste. Mais si je dois juste reconnaître quand même quelque chose, c'est qu'en ce moment, là, quasiment avec n'importe qui que je sois, je peux très facilement tenir un discours très engagé et il est... moins mal reçu, c'est-à-dire il peut assez vite être entendu, je peux vite me rendre compte qu'il y a 2 autres meufs autour de la table qui pensent comme moi et qui le disent, avant c'était pas le cas et qu'on peut très vite se retrouver à discuter de trucs vraiment deep et très engagés et très radicaux finalement, et ça c'était pas tellement le cas avant je marchais sur des œufs juste pour aller dire que je suis féministe, tu vois, entre deux, enfin vite fait quoi, et je trouve que rien, cette avancée du discours est peut-être quand même à prendre en considération comme un truc positif parce que ça veut dire que ça c'est de cercle en cercle et du coup...
Et t'as complètement raison, en fait je me rends compte en t'écoutant que c'est vrai que j'ai remarqué plusieurs fois récemment moi aussi être surprise de voir d'où pouvait émerger un petit sentiment un peu politisé là où je l'aurais pas attendu avant à des dîners avec des gens où je me dis ok, vraiment prêcher dans le désert et puis t'as 1, 2, 3 meufs qui disent un truc où tu dis waouh,
quand ça vient pas de toi, moi
c'est génial,
ça me repose.
Et en
aussi.
Fait, c'est là où effectivement tu prends conscience de du chemin parcouru. Tu dis, en fait, ça a vraiment infusé partout. En fait, avant je me disais oui, mais ça concerne quoi les 40 meufs que je connais, tu vois. Te dire, mais pas du tout en fait. Ça a vraiment plongé de plus en plus profond. Et en
là
fait,
où on l'attend pas, ouais.
Ouais, c'est ça. Et je pense que du coup, la résistance en face est encore plus violente et encore plus forte et d'un vieux monde qui a pas envie d'être bousculé. Et du coup, on le vit tellement fort.
Je sais pas si je l'ai déjà raconté dans le podcast, si c'est le cas, excusez-moi, mais à Noël dernier, tu me dis, j'ai déjà dit, mais à Noël dernier, j'étais avec ma famille, il y avait ma grand-mère et mon grand-père à table qui ont vraiment près de 80 ans, tu vois. Et à un moment, il y a ce truc un peu sur les accusations, je crois qu'il y avait PPDA à ce moment-là qui venait de sortir ou à peu près, tu vois, un truc comme ça. Et mon grand-père qui dit, oh oui, mais bon, elle se réveille tard, ces femmes et tout. Et ma grand-mère, moi, vraiment, je me dis, oh non, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat, donc flemme. Je prends sur un machin. Et là, ma grand-mère, illico, elle s'est retournée vers lui, elle lui a dit. Elle s'est retournée vers lui, pardon, elle lui a dit alors là, non. Alors là, non, je suis pas d'accord. Hein. Ça, si tu dis ça, ça veut dire que t'es du côté des violeurs. Hein. Ah, je veux pas entendre ça. Hein. Wow. Et hop, on est passé à autre chose. Et je me suis dit, bah, ma grand-mère, ça m'étonne pas qu'elle soit plutôt dans cet état d'esprit. Elle a toujours été un peu du côté, enfin, un peu comme ça, quoi. Mais c'est pas un truc que je l'avais déjà entendu verbaliser du tout. Elle l'a dit spontanément. On est du coup passé à autre chose. Donc, c'est vrai qu'on dit la jeunesse, le nouvel espoir, mais.
Mais pas forcément.
Mais, et les vieux du balai et tout. Mais en fait, ouais. Ça infuse au point qu'elle se soit sentie tout à fait légitime. Alors bon, elle était dans sa famille quand même, dans un environnement tout à fait safe, si je puis dire. Enfin, c'est pas toujours le cas d'ailleurs, on n'est pas toujours safe en famille, mais en tout cas, il y a eu un truc spontané où je me suis dit, ah,
c'était ouais, évident.
On,
quoi,
est, on en est à un point où elle peut le dire et ça va pas.
Et il a dit quoi, ton grand-père?
Je crois qu'il s'est
tué. Franchement,
j'ai pas le souvenir que ça ait traîné la discussion, ouais. Parce que tout le reste de la famille, bah, on était d'accord avec ma grand-mère. Enfin, du coup, en soi, ça n'a pas créé un débat. S'il y avait eu deux équipes, ce qui peut être le cas vraiment dans plein de familles, moi j'ai la chance que ça n'ait pas créé le débat parce qu'on était tous plutôt d'accord avec ça. Mm. Enfin, pas plutôt d'ailleurs, on est tout à fait d'accord avec ça. Mais tu vois, je me dis ça aussi, ça m'a fait un petit. Quand des discussions féministes ou écologistes, etc., mais surgissent, antiracistes surgissent à un endroit où c'est même pas toi qui la lance, bah moi ça me fait toujours un petit peu d'espoir, un petit peu de bien. Genre.
Bah ouais, mais c'est super, t'as raison. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. Bravo.
Bon bah c'est bon, on a gagné, on peut arrêter de se battre.
Tout va bien. C'est bon, l'espoir est là.
C'est bon, fin du match.
Allez, dernière petite question. Alors, Thiel.
Oh, je sais pas. J'ai envie de dire Thiel parce que pour ceux qui ont la parité, mais je trouve que c'est vraiment cool quand même. Et
comme t'as dit une dernière,
oui,
dit,
c'est vrai.
C'est ça, je ne crame pas ta dernière cartouche. Elle est écrite à la main. Est-ce que ça veut dire que.
Vaut qu'on n'avait plus envie d'imprimer un papier.
Est-ce que tu penses que l'être humain est bon par nature? Je crois que c'est un sujet que j'ai eu au bac.
C'est vrai.
Ouais, c'est Rousseau. Est-ce que l'humain est bon par nature? Alors, oui, j'ai eu mon bac en 99, donc les sujets étaient peut-être un petit peu différents. Est-ce que l'humain est bon par nature? Oui, bien sûr. Je pense que il est très abîmé tout le temps et que ça le rend méchant. Mais c'est Claire Nouvian que j'aime de tout mon cœur, qui m'a dit une fois que si pendant 3 générations d'affilée on aimait et on traitait bien tous les enfants, il y aurait plus aucun problème sur Terre. Et je dis, ouais, c'est vrai, elle me fait regarder. Il n'y aurait plus de. J'ai des problèmes d'ego à régler en écrasant les gens. J'ai plus de. Les gens auraient confiance en eux et donc tout le monde. Tu vois, elle m'a dit vraiment, on réglerait. Alors, c'est un peu caricatural, évidemment, il y a plein de choses que. Mais si jamais on savait tous se placer dans un truc où on se disait, j'ai pas besoin de vouloir du mal aux autres parce que les gens m'en veulent pas personnellement, etc. Elle dit vraiment, vraiment. 3 générations ont fait ça et après, le monde ira très bien. Et je pense que c'est vrai que c'est plutôt des. Chose, qu'elle soit systémique ou individuelle, qui rendent les gens. Parce que sinon, à la base, je pense pas qu'il y ait de l'inné dans le. Je pense pas qu'il y ait de l'inné dans grand chose, en fait, dans le caractère.
C'est l'environnement qui est créé.
Ouais. Oui, mais pourtant, les bébés. Alors, on peut le justifier, etc., mais il y a beaucoup de. Les bébés ou les jeunes enfants, ils mordent, ils peuvent taper, ils prêtent pas leurs jouets. Enfin, on leur apprend aussi ça.
Est-ce que tu penses pas qu'ils prêtent pas leurs jouets parce que c'est aussi quelque chose qu'on leur a appris à pas prêter?
Bah, parce que t'as plein d'expériences. En général, on leur apprend plutôt à prêter. Enfin, on se retrouve plutôt quand t'es à la crèche. Enfin, tu vois, mais vraiment, j'ai plutôt l'impression, je peux me gourer, j'ai pas d'enfant, mais pour en avoir observé et tout, j'ai plutôt l'impression, par exemple, qu'un enfant, il veut pas prêter ses jouets, spontanément. Après, est-ce que c'est parce qu'il y a quand même une éducation qui fait que il.
Oui, mais est-ce que ça fait quelqu'un de mauvais ou... Tu vois, moi, c'est pas à ça que je pense quand je pense mauvais. Ouais. Mordre et taper et tout ça, c'est une question de. Apprendre à être dans un écosystème où il y a d'autres choses et d'autres gens. Parce que, tu vois, très vite, j'imagine que même s'il n'y avait pas une éducation, des enfants qui mordent, ils se rendraient compte qu'après on les mord, ça fait mal une fois, deux fois, trois fois, puis ils ne le feraient plus. Tu vois, donc je ne suis pas du tout pour laisser les enfants être complètement à l'état sauvage, mais je pense que si on. Peut-être certainement que d'ailleurs ça a dû être fait, des expériences de ça, mais je pense que même ça, même les trucs d'un peu de propriété, des trucs comme ça, c'est un peu.
C'est le capitalisme en fait. Hein.
Bah, ouais, peut-être. Et, puis,
et le patriarcat.
Ouais, et qu'en fait, et c'est pas ça être mauvais. La vraie. Je pense que la. Pardon, mais c'est pas possible les positions. Prince ou chat qui veut ma mort de mignonnerie, putain, mais qui dort comme ça? Qui pique pas de gueule. Mais.
Enfin là, elle se bouche les oreilles, elle veut rien entendre.
Elle est comme ça, mais elle met son bras derrière sa tête. Elle me montre son petit bidon. Je sais plus ce que je dis ça du coup. Je pense que l'humain est bon. Voilà, je suis team Jean-Jacques Rousseau. Donc, et que c'est après qu'on le rend amer et égocentrique et mauvais. Et que Sinon, non, je pense que...
Oui, mais enfin, mais il se précipite quand même pour être mauvais, l'humain. Enfin, comment ça se fait que dès lors...
Mais c'est quoi mauvais,
tous,
déjà
par exemple, comment ça se fait que ceux qui nous gouvernent, ils prennent que des décisions un peu mauvaises, et pour la planète, et pour les femmes, et pour les minorités, etc. Enfin,
est-ce que tu
ne
penses pas qu'ils ont tous... C'est peut-être un peu angélique de ma part, mais est-ce que tu ne penses pas qu'ils ont tous commencé ce truc-là en ayant envie de faire le bien, et que vraiment c'est un contexte dans lequel c'est très compliqué
c'est
de rester.
C'est une très bonne question.
Ou alors est-ce que, est-ce que quand on donne tous les moyens, bah en fait tu reprends ta nature la plus spontanée, qui te demande aucun effort, et c'est celle d'être un gros bâtard et de penser qu'à ta gueule.
C'est comme quand on parle des. Enfin bon, attention, c'est pas tout de suite. Enfin bref, la comparaison, voilà. Mais pour parler d'une institution dans laquelle on rentrerait pour exercer son bail mauvais, il y en a qui disent que les prêtres pédophiles, par exemple,
ils ont choisi l'église pour ça.
Voilà, on choisit l'église pour exercer leur pédocriminalité.
Moi, j'ai un peu plus de mal à me dire que l'humain est foncièrement bon, parce que on va très vite dans le mauvais et on cherche très vite des excuses qui justifient qu'on aille dans le mauvais quand même. Alors le mauvais, c'est pas forcément effectivement violer ou tuer des gens, bien que ça représente déjà beaucoup de gens qui le font et qui le subissent. Mais oui, voilà, comment, enfin, en fait, finalement, il y a plus de gens bons ou méchants sur Terre, par exemple.
Bah, tu vois, encore une fois, hein, je pense totalement à voix haute et je ne sais pas où va ma réflexion, mais tu crois pas que, par exemple, le sentiment d'impunité qui font que les agresseurs sont des agresseurs, ils sont pas forcément nés des agresseurs, mais l'éducation n'a pas fait le travail de leur apprendre que non.
Oui,
non,
bien sûr
en fait,
que c'est un problème d'éducation, puisque même dans beaucoup de cas, ils agressent sans savoir qu'ils sont en train d'agresser. Donc,
oui, c'est ça,
de
c'est
faire
juste
quelque chose de mal.
Pas du tout savoir gérer sa frustration, avoir l'impression que t'es au centre de tout et que si tu veux quelque chose, tu le prends, etc. Est-ce que... Mais du coup, ça va à l'encontre de ce que je disais.
Ben non, mais oui, mais et par exemple aussi, surtout là, si on part dans ce qu'elle te disait,
Claire Nouvian,
qui est une, c'est qui ?
En fait, c'est la fondatrice de l'ONG Bloom.
D'accord.
Et c'est une activiste. Okay. C'est là, vraiment, penchez-vous sur ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. Vous allez être amoureuse d'elle. D'accord. Et vouloir devenir sa meilleure amie.
Très bien.
C'est la personne la plus énervée de manière parfaitement intelligente qui existe. Et c'est la première femme qui m'a dit que la colère était une source d'énergie dans laquelle il fallait que je puise pour faire des choses.
Non, j'arrête pas de le dire.
Trop bien. Ça y
elle m'a dit ça
déjà.
À un moment dans ma vie. Elle dit, mais c'est super d'être en colère. Ouais. Oh, c'est génial. Il y a que ça qui marche comme énergie pour faire des choses. Et donc et d'ailleurs, ce qui est intéressant, je fais un aparté Claire Nouvian, mais moi ça a toujours été ma reine de tout ça, de me demander que ferait Claire Nouvian quand j'ai doute. Et en fait, il y avait un truc, c'est qu'elle m'avait toujours dit que pour toutes ces raisons, c'est pour ça qu'elle ferait pas de politique, parce qu'elle savait que sinon elle serait pieds et poings liés, qu'elle serait plus du tout utile, parce qu'elle ne serait que du renoncement. Un jour, je l'ai vue enfin aller en politique, et je me suis dit, je suis obligée de la suivre, parce que si elle, qui est la personne la plus intègre du monde, elle y va, c'est que voilà. Eh bien, elle a quitté la politique très peu de temps après, en disant, ce n'est pas un milieu qui est fait pour moi, parce que c'est trop de renoncement.
Tu peux pas rester
c'est trop
intègre,
de renoncement, en fait. Donc, tant pis, je retourne dans le.
Et malgré ça, vous pensez que l'humain, il est bon ? Enfin, y a un moment, moi, je veux bien. Moi, je pense aussi que beaucoup passe par l'éducation et qu'on pourrait changer les choses. Mais du coup, notre génération, c'est-à-dire les gens qui existent en ce moment sur Terre, du coup, ils sont mauvais.
Pourquoi ?
En fait, je veux dire, je suis pas dans l'humain, est-ce qu'il est foncièrement bon ou mauvais sans exister. Je me fais pas une projection de qu'est-ce qui se passerait si on changeait ça. Je me dis là, concrètement,
dans
avec
l'existence.
Les gens avec qui on vit. C'est-à-dire que finalement,
je connais des gens qui ont un très mauvais fond.
Mauvais.
Je connais des gens qui ont un très mauvais fond.
Vu qu'on est éduqué de la manière dont on est éduqué, dans ce système patriarcal, capitaliste, etc., qui met un système d'oppression en place, on est du coup forcément un peu mauvais, ou pas ?
Oui, mais du coup, la question, c'était est-ce qu'on l'est à l'origine en naissant ou pas ? Alors, non.
Mais ça veut rien dire.
Un bébé ne naît pas raciste ou sexiste ou quoi. Donc,
non, mais ça,
c'est
d'accord.
Évidemment le contexte.
Mais ça, je trouve que c'est beaucoup plus...
Maintenant, si ta question, c'est est-ce qu'il y a plus de gens mauvais que bons sur Terre ? Je pense pas. Moi, je pense qu'il y a plus de gens bons sur Terre, mais par contre, il y a plus de gens mauvais qui ont le pouvoir. Enfin, le pouvoir est plus...
Peut-être que ça aide à avoir le pouvoir, quoi.
Ouais, voilà. Peut-être que ça aide à avoir le pouvoir, d'où la...
Tu sais, comme quand on dit... oui, d'ailleurs, les gens sur Internet disent que... Et en fait, non. C'est une infime minorité de gens, mais c'est ceux qui l'ouvrent le plus. Et donc, ça fausse un peu le truc. Mmh. Et donc, l'impression que le monde est peuplé de salauds, est-ce que c'est pas juste parce que les salauds ont émergé tout en haut, après toutes les pyramides, et qu'on se dit, regarde, il y en a partout.
Et qu'ils font beaucoup de bruit.
Et tu dis, mais non, en fait, il n'y en a pas tant que ça, numériquement. Mais...
Ouais.
Putain, j'adore le sujet philo, là. Génial,
c'est ça. C'est intéressant.
On passe le bac.
Non, parce que effectivement, je pense que tout le monde sera d'accord sur le fait de si on crée des humains fabriqués, on peut les rendre. Enfin, ils seront bons quand ils sont neutres. Ça, je trouve que c'est moins clivant. Comme je pense qu'on a à peu près le même avis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, par exemple, si quand tu sors de chez toi, ça te coûte plus d'efforts d'être gentil ou d'être mauvais. Et si ça te coûte plus d'efforts d'être gentil, bah c'est que foncièrement on est mauvais.
Recommence.
Quand tu sors de chez toi chaque jour, est-ce que ça te coûte plus d'énergie ? Est-ce que ça te coûte plus d'efforts et de réflexion d'être bonne ou d'être mauvaise ? Si ce qui te coûte le plus, c'est d'être bonne, ça veut dire que foncièrement, on est mauvais. Si ce qui te coûte le plus, c'est de payer quand tu vas faire tes courses, ce qui te coûte le plus, c'est de laisser passer quelqu'un devant toi, ce qui te coûte le plus, c'est d'être poli, de répondre merci, de pas être raciste, de pas être sexiste, de pas être homophobe, de pas être tout ce système d'oppression, si tout ça finalement te coûte un peu, même pas être épuisé, mais si ça, à chaque fois, c'est un effort, ça veut dire qu'on est foncièrement mauvais à la base.
Bah, pour plein de gens, c'est le cas,
ouais.
Effectivement.
Ouais, clairement. Je vous ai mindset.
Je pense que quelqu'un de foncièrement homophobe, raciste, tout ce sexiste, tout ça.
Même juste ce principe, tu vois, de dire je vais plutôt voler mes courses que les payer. Et tu vois, de dire pas voler, bon, ça me coûte un petit effort. Mais je vais plutôt passer devant cette dame voler, que lui laisser ma place.
Mais voler une grande enseigne, c'est plutôt cool. Que...
Là, c'est un podcast débat. De punk.
Non, mais ça, j'avoue que des podcasts. Vraiment une punk. Ma mamie avait écouté le podcast, ça m'a manqué.
En fait, bien sûr. Non, mais oui,
mais là, l'exemple n'était pas bon, je veux dire.
Tu sais, t'es assis dans le métro et quand même, ça t'arrange quand même bien que personne te demande de lui laisser sa place. Enfin, des petits détails. Attention, une somme de petits détails qu'on peut considérer. Tu vois, tu vas à la boulangerie.
Oui, mais pareil, tu veux pas laisser ta place à une grand-mère ou un grand-père parce qu'ils sont vieux. Oui, mais parce qu'ils ont voté Marine.
Non, non, t'exagères. Non, là, tu vas trop loin. Là, tu te mens à toi-même.
Tu vas trop loin dans les coins.
Tu te mens à toi-même.
En venant, moi, j'étais assise dans le métro. J'avais une super place dans les banquettes à 4 où tu sais que tu vas jamais devoir te lever. Donc, bien. Bah oui. Et j'ai pris au départ de la ligne, donc vraiment j'ai bien mérité ma petite place près de la fenêtre. Et en fait, il y a deux nanas qui sont arrivées et elles parlaient. Et le temps qu'elles arrivent, il n'y avait plus assez de place dans les banquettes à 4. Il y en a une qui s'est mise avec moi et l'autre, sa pote, elle s'est mise derrière sur les strapontins, nul. Ouais. Et vraiment, très naturellement, j'ai dit, vous voulez échanger avec moi? Et sa pote, elle a fait, mais merci.
Ah bah toi, t'es gentille.
Mais en fait, c'est même pas ça, c'est que je me suis dit, ça me ferait trop chier si moi j'étais loin de ma pote. Et une fois qu'elle s'est assise, j'avoue, j'ai eu un petit picotement de je suis tellement une bonne personne.
Bah oui.
Je me suis dit, vous savez, ça me coûte pas grand chose. Et puis c'est comme ça, je fais le bien autour de moi. Et je me suis dit, ça coûte quand même pas cher de faire des trucs comme ça où tu te dis, voilà, des petits bonheurs du quotidien.
Offrir un petit bonheur.
Tu sais, je me voyais un peu de l'extérieur comme si j'étais dans un film sur quelqu'un qui un jour, tu sais, vraiment genre le Noël de Mickey où un jour Scrooge décide d'être gentil et de faire le bien. Et je me disais, finalement, rendre les gens heureux, c'est merveilleux. J'étais trop fière de moi, alors que c'est nul en fait.
Non, non, ouais, mais bon, c'est gentil, c'est vraiment gentil, c'est un acte
c'est
sympa.
Mais ouais. il y a une vidéo de Cyrus North, un youtubeur que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, sur, qui philosophe sur pas mal de sujets. Qui philosophe qui,
oui, ouais,
du verbe philosopher. Ouais. Et il y a une vidéo là-dessus sur est-ce qu'on est. Mince, c'est quoi le titre?
Vous êtes des merdes genre...
Non, ça c'est un.
Non, il a vraiment des titres de vidéos comme ça, c'est pas moi qui.
Oui, mais ça c'est assez marrant cette série-là, j'aime bien. Mais non, là c'est est-ce qu'on peut être vraiment bon? Est-ce qu'on peut être vraiment bon? Ou alors, est-ce qu'on fait tout pour...
Est-ce que c'est intéressé
se persuader qu'on est... Voilà, exactement. Ouais. Est-ce qu'on est intéressé dans toutes nos actions, effectivement. Donc là, comme tu disais, ça t'a quand même fait kiffer de te dire « Ah, je suis un génial. Peu sympa voilà. ». Ouais. Exactement. Et du coup, sa vidéo est...
Ouais, mais finalement, au final, ça fonctionne. C'est-à-dire que si tout le monde fait ce truc d'ego, voilà. De se dire « J'ai envie qu'on dise de moi que je suis une bonne personne ». Franchement, si tout le monde joue le jeu et le fait, on gagne tous, quoi.
On va passer à la dernière petite chronique de ce podcast.
Est-ce qu'il y a un jingle?
Il y a un jingle, c'est « Top Flop Culture ».
Et je dois faire un jingle?
Ah, oui.
Top Flop Culture. 100% de mes jingles sont des jingles de téléachat. C'est quoi? Faut que ce soit des bouquins, des séries, des quoi?
N'importe quoi qui serait de l'ordre culturel de près ou de loin, mais ça peut être une personne même, tu vois. Par exemple, qu'est-ce qu'on s'en fout? On peut faire ce qu'on veut ici. On n'a pas de...
Une découverte, en fait.
Une découverte.
Un carcan. Ouais. Si on te laisse une minute pour réfléchir, et Camille a déjà son idée, probablement. Okay.
Camille a déjà son idée. Je vais conseiller le livre... Attends, parce que j'ai déjà deux... Le livre « Sensible » de Nejma Kassimi, qui est une autrice, je crois qu'elle a un passé de philosophe peut-être, en tout cas c'est un essai, c'est pas un roman. Elle raconte son parcours de fille d'immigrés en France, et en fait elle revient sur notamment le sujet de la guerre d'Algérie, qui est un sujet que moi je connais peu, je connaissais pas vraiment. Elle explique à un moment tout pourquoi on appelle les pieds noirs, enfin qui sait, c'était quoi en fait, hein, vraiment tout ça, et surtout à quel point c'est tabou, et à quel point il y a des tonnes de films sur la guerre du Vietnam, sur la Seconde Guerre mondiale, mais alors les films sur la guerre d'Algérie,
on
n'a pas grand chose, et en fait c'est vraiment un point de vue, évidemment c'est un point de vue complètement, elle a choisi entre guillemets son camp, enfin, c'est-à-dire qu'elle revient sur le fait que l'Algérie voulait récupérer son indépendance, ce qui est quand même logique, parce qu'on est arrivé dans un pays, on a dit maintenant c'est chez nous, et ils ont dit peut-être pas, et on était là on va vous tuer, ah d'accord, ça, je le résume comme ça, mais en gros c'est un peu cette histoire-là dont je trouve on n'est pas si informé que ça, et elle parle beaucoup de ce silence-là et du fait que quand ils vont mourir, cette génération, parce que ça y est, c'est sur la, on est vraiment sur la fin des personnes qui ont vécu cette guerre d'Algérie, en fait. Et ben, vu comment on raconte l'histoire en France, on va oublier un peu... Enfin, on risque d'oublier, on peut oublier en fait, la gravité de ce qui s'est passé et l'improbabilité, le mot est un peu faible, mais
le rôle
complet des Blancs, des Français, des colons, d'avoir appelé les indigènes, enfin... Ça a été fait. Et dans le livre, déjà, il est vraiment bien écrit. Et moi, c'est quelque chose que j'ai à cœur. C'est-à-dire, quand je lis un livre et si je trouve que la plume n'est pas belle, c'est vraiment difficile pour moi. Enfin, c'est hyper subjectif, en vrai. Mais du coup,
en général, c'est le premier retour que tu fais, c'est « Oh, c'est écrit avec le cul !»
C'est vrai, je dis ça.
J'ai pas aimé, c'est écrit avec le cul.
Quand c'est écrit avec le cul, ça m'agace. Quand le livre, je sens qu'il a été écrit en deux heures, ça me saoule. Et là, je trouve que c'est vraiment bien écrit. Et elle fait beaucoup de un peu des métaphores, elle fait d'un seul coup elle part dans un parallèle, par exemple à un moment elle parle de l'étranger de Camus pendant plein de pages et tu sais pas trop pourquoi et hop d'un coup ça raccroche et du coup ce qu'elle explique est extrêmement clair parce qu'il y a eu 5 pages avant qui ont fait une espèce de métaphore, un parallèle, et donc je trouve super et je trouve que c'est hyper important qu'on se questionne, enfin qu'on lise ce genre de récit parce que moi je savais pas en fait et aujourd'hui j'aurais pas pu tenir un débat, alors je n'aurais pas la prétention de dire qu'aujourd'hui je le peux, mais avant une discussion sur la guerre d'Algérie, j'aurais vraiment... par principe, je serais du côté des gens qui ont été colonisés, parce qu'on a colonisé tout le monde comme si on était les meilleurs. Enfin, je dis « on », les Blancs, les Français blancs, quoi. Et du coup, donc, j'aurais été plutôt par principe de ce côté-là, mais maintenant, j'ai plus d'arguments, je saurais plus comment voir cette période de l'histoire, et effectivement, c'est incroyable que... ça soit mentionné nulle part.
Est-ce que tu trouves que c'est vraiment incroyable quand on voit comment la France s'est comportée? Parce qu'il n'y a peut-être pas un petit peu pour ça qu'on n'en parle pas. Je crois que c'est vraiment
un
de l'histoire.
C'est ça. Mais c'est dommage parce que en fait, pourtant, on arrive à parler de la Seconde Guerre mondiale alors qu'on la moitié de la France était nazie.
Ah non, parce que l'histoire officielle, c'est que la moitié de la France n'était pas nazie. C'est pas notre faute.
On n'assume pas. On n'assume pas trop.
C'est quoi? C'est pas dans le spectacle de Walidia qui dit que Pétain, il avait fait des lois nazies avant les nazis.
Surtout que la France a été zélée par rapport aux attentes des nazis et en a donné plus que ce qui était demandé. Donc, je vous recommande la lecture de la carte postale d'Anne Berest de ce point de vue, qui est super. Mais tu vois, c'est tous les pans de l'histoire, on fait non, pas du tout. Regarde comme on parle pas de la Commune non plus, tu vois.
De
la Commune. La Commune, c'est vraiment la partie de l'histoire de France où on fait.
Je connais pas.
Et ben Look It Up, c'est vraiment super parce que c'est un moment où une insurrection française s'est rebellée contre le gouvernement et a vraiment tenu la barre de vouloir, avec en plus à plein de niveaux, vouloir un nouveau monde un peu plus progressiste, etc. Ça s'est terminé dans un bain de sang parce que ces gens ont été quand même massacrés. Mmh. Et puis on a construit le Sacré-Cœur là où était pour vraiment asseoir le pouvoir, pour montrer que c'était terminé la Commune et que c'était mort. Et là, c'était l'anniversaire de la Commune, donc il y a eu quand même pas mal de publications autour de ça. Et c'est un pan de l'histoire où je trouve que c'est vraiment tellement révélateur le fait qu'on essaie de pas trop en parler à l'école, c'est qu'on n'a pas du tout envie de te parler à un moment où on a...
Ouais, mais je trouve qu'il faut le mettre le nez dans le caca.
Des révoltés.
Moi, je trouve que c'est important.
Mais t'as appris quoi, toi, à l'école de ces...
Non, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve qu'il faut mettre un peu le nez dans notre caca.
Oui.
Et parce que c'est pour moi le meilleur moyen... Je vais dire un truc extrêmement bateau, mais oui, mais d'arrêter d'être raciste. Enfin, en vrai, par exemple, tu lis juste ce livre-là, et puis idéalement, il faut en lire plusieurs pour avoir un peu plusieurs sons de cloche, mais juste à un moment, quand tu lis ce livre-là, ça va être compliqué derrière de continuer à penser que la guerre d'Algérie, c'était les méchants arabes. Enfin, tu vois, et parce que ça a quand même créé tout un pan de nos vieux racistes, la guerre d'Algérie, il faut pas l'oublier. Beaucoup de grands-parents aujourd'hui ont du racisme qui date de cette période-là. Et du coup, je trouve que d'un coup, tu as un éclairage. Et voilà, faut mettre un peu le nez dans notre merde aussi pour comprendre pourquoi il y a une scission aussi, pourquoi les médias diabolisent autant les musulmans, enfin d'où ça peut venir un peu, parce que sinon on va juste dire c'est pas les gentils arabes d'un côté, les méchants français de l'autre, c'est juste qu'en fait
c'est
d'où ça vient cette animosité, enfin je sais pas comment dire, mais cette problématique en fait qu'on peut vivre en France, c'est pas que ça la réponse, c'est pas la guerre d'Algérie la réponse, mais c'est des éléments qui t'apportent, c'est des choses qui t'apportent des éléments de compréhension pour notre monde d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Voilà. J'ai fini.
Trop merci bien. Pour la reco.
J'ai le droit à très rapidement plusieurs mini reco.
Oui.
C'est vraiment trop dur de choisir parmi tous les trucs bien. Hyper vite, une BD trop bien qui s'appelle Amour croisé.
d'une autrice qui s'appelle Lauren Safou. Et c'est une BD qui raconte des relations amoureuses et amicales entre un groupe de gens avec une héroïne centrale et la façon dont on évolue dans nos relations amoureuses. C'est extrêmement bien écrit et très bien dessiné aussi, mais vraiment très fin dans les personnages. Ça parle pas mal de polyamour. Et c'est vraiment, ça se suit comme un feuilleton. C'est super. Voilà. Et c'est sa première BD. Pff, quel talent. Mmh. Ça, c'est super. En ce moment, je suis tombée les deux pieds dans une saga de livres où je lis en marchant et je rate mes arrêts de métro tellement c'est bien. Je ne sais pas s'ils ont besoin de pub parce que j'ai l'impression que tout le monde le lit, mais c'est des petits bouquins qui s'appellent Blackwater, la série. Et c'est des petits bouquins où à chaque fois, il y a un nouveau volume qui sort toutes les deux semaines. Wow. Et le numéro 4 est sorti vendredi et c'était l'émeute à la librairie. Mmh. Et les livres sont très beaux en plus. Aux éditions Toussaint Louverture, et il y a tout ce qu'on aime dedans. Ça se passe dans les bayous, dans l'Alabama, avec des trucs un peu magiques et des histoires de famille, et en même temps des vieilles mamans méchantes. Enfin, bon, c'est vraiment super. Blackwater, c'est génial. Et une série, ça, en fait, j'avais pas prévu d'en parler, mais tu parles de ça, ça m'y a fait penser. C'est Usekin. Oui. Je sais pas si vous l'avez vu. Il faut avoir un abonnement Disney Plus ou demander des codes à des copains. Mais sur donc l'assassinat de Malik Usekin par la police. Et c'est écrit entre autres par une autrice que j'aime à la folie qui s'appelle Faiza Ghen. Oui. Et je sais pas si t'as lu La Discrétion, mais ça te, enchaîne après ça là-dessus parce que ça parle un peu de la même chose, mais c'est très bien. Et c'est incroyable, ça dure 4 épisodes et tu penses que tu sais à quel point tu vas être énervé en le regardant, mais tu ne peux pas savoir à quel point tu vas être énervé. Et c'est super que tout le monde joue bien déjà. C'est très bien écrit et c'est super qu'on consacre 4 vrais épisodes bien construits à parler de ce truc qui reste quand même un sacré caillou dans la chaussure de la justice française.
Et de la police.
Et de la police. Et c'est dit très simplement. Là, il n'y a pas du tout de « oui, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Non, bon, c'est bon, on a tous statué sur le fait que c'est les flics qui l'ont tué. Et surtout que ça a été reconnu en plus, c'est ça qui est fou. Ce n'est pas un spoiler, c'est dit dans la première scène. Voilà, c'est vraiment super. Et truc que j'ai vu ce matin et j'étais trop contente, c'est que l'incroyable spectacle de Marina Rollman va être dispo sur Canal à partir de demain. Et je pense que ça fait très longtemps que je n'avais pas autant ri à un spectacle de ma vie que ce spectacle au Paradis Latin. Quel talent et quelle densité dans le talent, c'est-à-dire il n'y a jamais de ventre mou. C'est tout le temps génial. Et le temps que tu repenses à la phrase qu'elle vient de dire, tu es déjà en train de pleurer de rire d'autre chose. Mm-hmm. Quelle intelligence dans l'écriture. Donc là aussi, demandez des codes Canal si vous n'en avez pas sur les canals. Mais vraiment, j'étais contente quand j'ai vu qu'il allait streamer parce que j'étais allée le voir, j'essayais de le raconter à des gens. Évidemment, c'était nul quand je le racontais. Je disais, c'est con parce qu'elle le dit mieux, elle est vraiment marrante. Et du coup, les gens vont pouvoir le voir et constater qu'effectivement, je le racontais mal. Et qu'en fait, c'était génial. Donc voilà.
Trop bien. Tout me chauffe.
J'ai essayé d'être hyper concise pour qu'elle ait un maximum. Ouais,
c'est super. Ça chauffe.
Grave. Usekin, j'en avais parlé dans le dernier épisode, j'aurai du podcast.
Mais
c'est bien parce que t'as pas dit la même chose que moi, et du coup c'est intéressant.
Faut que je vois absolument.
Ouais, c'est trop bien. Et lire Faiza Ghen en général, c'est super.
Oui, effectivement.
Ça rend trop bien. Sinon, je vous aurais parlé de drôle, mais je pense que le moment entier en a parlé. En plus, mon chagrin est encore trop intense de ces méchants de Netflix.
Pas de saison 2.
Donc,
grave, moi aussi j'avais trop kiffé.
On les hait. Si vous nous entendez, on vous hait.
Moi, vas-y, je boucle vite fait. Je rebondis sur ta reco en faisant une reco sur un truc qui nécessiterait d'être lu par tout le monde et surtout par tous les hommes. Pitié. C'est donc j'ai pas fini, mais je m'engage d'avance à dire que c'est de la balle parce que j'adore cette personne. Donc je vous recommande et le mec et le livre. C'est Francis Dupuy-Déry qui est un philosophe québécois, un prof / philosophe / essayiste, enfin bon, voilà.
Une tête.
Qui a, voilà,
ce qu'on appelle un intello.
Une tête. qui a donc écrit ce livre qui date déjà un petit peu, qui s'appelle La crise de la masculinité. Et du coup, il refait le tour du début de la crise de la masculinité dans le monde entier, donc dans plein d'endroits différents du monde. Comment ça a pris forme, quand, etc. Et c'est très intéressant. Et t'as envie de tout casser quand tu lis ça, parce que tu te dis, mais putain, vous nous avez jamais laissé de répit, en fait, à nous, les femmes.
On est d'accord que ça revient un peu sur le fait que dès que les femmes ont essayé de se battre pour les droits, il y a toujours eu un penchant masculin, masculiniste, qui voulait pas que ça se passe.
C'est
pas
juste aujourd'hui. Et même avant qu'elles se battent pour des droits, c'était de toute façon, oh non, faites pas ci, faites pas ça. Non, non, on a décidé. Non, allez nous faire ci, allez nous faire ça. Et puis vous mettrez pas ci et pas ça. Enfin bon, du contrôle. Et puis surtout, les hommes ne ressemblaient surtout pas aux femmes. femme. Hein. C'est parce que vraiment, vous allez perdre toute votre masculinité.
Mais c'est pas du rose.
Ah ouais, surtout pas. Et pas de perruque et machin. Enfin bon, alors que jadis, ils mettaient des perruques, en fait, les mecs.
Et du maquillage.
C'était juste... Et du maquillage et des robes.
Et des talons. Mais...
Et des robes.
Mais...
Non, des talons... non, mais ils exagèrent. Enfin, ils savent pas ce qu'ils veulent, en fait. Bref. Et donc voilà, ce mec-là. Et si vous avez du mal à lire, je vous comprends, parce que moi aussi, surtout des essais comme ça, ça peut être un peu compliqué. Je vous recommande à minima son interview sur Thinkerview. Voilà, disponible sur YouTube. Qui dure
vous voyez qu'on
heures,
aime aussi les hommes.
Qui dure 2 heures et quelques. Bah lui, je l'aime. Mais
oui, oui,
fort,
on l'aime.
Fort, on l'aime vraiment. Et cette interview, elle vaut tellement le coup, qui est sous format podcast aussi. Donc vraiment, vous n'avez aucune excuse
pour ne pas
l'écouter.
Une vidéo,
un livre ou un podcast. Et vraiment, particulièrement si vous êtes des mecs, parce que c'est terrible. Mais je sais très bien que, bah, on sait très bien que les hommes ont plus de facilité
à écouter les hommes.
À écouter les hommes, hein, que ça rentre plus facilement dans leur tête quand ce sont des hommes qui leur disent des
vérités. Bah oui, parce que d'un coup, ils ont plus leurs émotions qui ouais. les débordent.
Est-ce et que t'as vu passer voilà. ce livre qui s'appelle On ne naît pas mec
Ça me dit
de Daisy Le Tournard.
Non.
J'aimerais bien le
pour
lire.
Les gens qui n'aiment mais pas lire, pas lu, vous avez ouais. quand même aimé le lire. En plus dedans, elle a mis plein de petits dessins marrants et tout ça.
Ah trop bien.
C'est génial. Ouais. Vraiment. Ouais. Je, si j'ai le droit, une cinquième rencontre.
Ah. Trop bien.
M'a fait venir. Je crée mon propre podcast.
De avec plaisir. Bah je lis vraiment 90% des trucs où il y a des dessins dedans.
Il y en a un petit peu. Et c'est vraiment super. Je vous invite également à la suivre sur Insta parce que c'est très drôle.
Ok.
Daisy Le Tournard.
Trop cool. Bon, bah voilà, plein de choses pour vous déconstruire. Allez, c'est parti.
Au boulot.
On vous laisse.
Eh bien, merci beaucoup, Pénélope.
Merci à vous.
Est-ce que les gens, tu aimes qu'ils te suivent sur Instagram, sur...
Ah oui.
Qu'ils achètent tes livres. T'as
si
des livres en librairie tout le temps.
Mon
en fait.
Chat et mon mec, ils vont vraiment se régaler. Et ce que je fais à bouffer aussi.
Non, mais donc qu'ils aillent te chercher en librairie. On est d'accord.
Oui,
Pénélope Bagieux,
si
il
ouais.
y a de quoi faire.
Mais ouais, j'en ai vraiment.
Les strates, dernier en question, mais ouais. les culottés, les strates. Achetez-vous les BD de Pénélope ouais. pour l'été, pour lire
et
sur la plage.
Suivez-la sur Instagram et vous saurez tout, quoi.
Ben, en tout cas, merci. Merci beaucoup d'être venu partager ce moment deep and chill avec nous.
Yes.
Et on est très contents parce qu'on t'avait jamais rencontré. Donc c'est
ça y
joie.
Est. Oui.
Ça y est, maintenant, on est copines.
Et
voilà, eh bien, on va faire un petit merci bye toutes les trois, si ça te va, de nous accompagner
okay.
en disant
à
merci,
trois.
Bye.
Okay.
Pour,
un,
deux.
Trois.
Merci, bye.
On espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes audio, à le faire tourner, nous laisser des étoiles, des cœurs, des mots doux, des commentaires quand c'est possible. Ça nous aide à référencer le podcast.
Et vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, sur Instagram et même sur Facebook pour les plus vieux d'entre vous en tapant Camille et Justine. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain numéro.
Merci, bye.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.